Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous êtes bien en train de suivre Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Devant ce micro, Nani Tetalani. L'OMS définit l'accident vasculaire cérébral comme une conséquence de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau, entraînant un déficit en oxygène et en nutriments. Les causes peuvent être soit une hémorragie ou la thrombose d'une artère cérébrale. Parmi les signes annonciateurs figurent les étourdissements, la perte soudaine d'équilibre, l'engourdissement et l'affaissement d'une partie du visage, d'un bras, d'une jambe ou d'une partie du corps, la confusion, la difficulté à s'exprimer ou à comprendre, la perte soudaine de la vue ou la vision trouble d'un œil, comme nous l'avions évoqué dans notre programme précédent. Mais comment peut-on prévenir les accidents vasculaires cérébraux? Comment se fait la prise en charge d'un AVC? La maladie est-elle traitable?
Une prise en charge bien conduite peut aboutir à une guérison qui est tout à fait optimale et totale de la pathologie.
Quelles sont les questions dont nous allons discuter avec le docteur Prince Kazadi? Notre invité répondra aussi à toutes les questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique. Le docteur Prince Kazadi est médecin neurologue à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la clinique Man Caché à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Les études indiquent que dans 80% des cas, l'AVC est dû à une baisse de l'apport de sang provoqué par un obstacle à l'intérieur d'une artère cérébrale. C'est l'accident ischémique. Dans 40 à 50% des cas, la maladie est causée par une thrombose cérébrale due à la présence d'une plaque de lipides au niveau de la paroi de l'artère. C'est l'athérosclérose. Dans 30% des cas, un caillot provenant d'une autre localisation du corps, en général du cœur ou d'une artère carotide, bloque la circulation cérébrale. C'est l'embolie cérébrale. Enfin, dans 20% des cas, c'est une hémorragie cérébrale qui est à l'origine d'un AVC. C'est la cause la moins fréquente, mais aussi la plus grave. Voici arrivé le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Prince Kazadi.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
De revenir pour cette deuxième partie de notre émission consacrée à la prévention et au traitement des AVC. Pour commencer, cette question d'Espoir Kitumaini et Christian Politassi, les deux veulent savoir s'il y a des produits efficaces contre les AVC.
Il y a toute une gamme de produits pour traiter cette pathologie, mais les traitements de l'AVC ne se reposent pas seulement sur les médicaments ou la prise en charge médicale, mais il y a toute une gamme de principes qu'il faut observer pour s'attendre à un résultat escompté. Et il y a donc des principes de prise en charge, et c'est une prise en charge qui est tout à fait pluridisciplinaire, qui repose pratiquement à trois principes.
Ok, mais par quoi commence la prise en charge?
La prise en charge commence par les diagnostics. Il y a la phase d'aiguille et la phase aussi post-AVC. Donc, une prise en charge bien conduite peut aboutir à une guérison qui est tout à fait optimale et totale de la pathologie.
Puisque c'est la prise en charge avant et après la maladie qui est aussi importante dans le traitement de cette maladie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cette prise en charge?
Je vais essayer de me résumer par rapport à cela parce que c'est un sujet trop vaste, mais je vais faire de mon mieux pour que les auditeurs aient le nécessaire sur la prise en charge de cette pathologie de l'AVC. La prise en charge optimale repose sur les trois étapes, dont nous citons le diagnostic comme étant un moyen déjà de prise en charge. Il y a la prise en charge de la phase aiguë et aussi la phase post-AVC. Pour ce qui est du diagnostic, Nani, je voudrais préciser que les signes cliniques marqueurs des troubles neurologiques focaux que nous avons vu précédemment dans l'émission passée sur les signes cliniques de l'AVC orientent le diagnostic vers un AVC, mais la confirmation de ce diagnostic doit être infirmée ou encore confirmée par une imagerie médicale et beaucoup plus précisément, nous utilisons le scanner cérébral qui permet de diagnostiquer l'hémorragie cérébrale, mais cet examen est moins précis quand il s'agit d'un AVC ischémique. ou encore un infarctus cérébral.
Quel est donc l'examen de choix dans la prise en charge d'un AVC?
L'examen de choix dans le diagnostic des AVC, c'est l'imagerie par résonance magnétique, IRM, qui est donc l'examen de référence. Si le signe clinique plaide en faveur d'un AVC, ou le clinicien ou le médecin qui nous a transféré le malade a pensé à un AVC, la première des choses à faire, c'est pratiquement cette imagerie par résonance magnétique qui nous aide beaucoup plus à voir la précision diagnostique de l'AVC.
Est-ce que c'est le même cas pour la phase aiguë?
La phase aiguë comprend aussi certaines étapes à absolument suivre. Nous avons premièrement la surveillance neurologique et je vais essayer de revenir pour vous donner un peu de détails là-dessus. Nous avons la surveillance des paramètres vitaux. Nous prenons beaucoup plus la pression artérielle, l'électrocardiogramme, la prise de température régulière, la fonction respiratoire, la glycémie, faire le bilan étiologique, faire ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique et la prise en charge tout à fait médicamenteuse. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire sur la surveillance neurologique dans la phase aiguë et la prise en charge de l'AVC.
Qu'y a-t-il de particulier dans cette surveillance?
Il y a eu des échelles qui ont été élaborées par certaines institutions médicales comme étant les scores ou l'échelle spécifique de l'AVC. C'est comme ce que nous appelons la NIHSS, National Institute of Health Top Score. C'est une échelle qui nous permet de faire l'évaluation clinique de l'état neurologique des patients en cas de fracture cérébrale aiguë. Mais il existe bien sûr une corrélation entre ces scores obtenus et le volume de tissu cérébral infarcti ou encore le volume du tissu cérébral endommagé par l'AVC. Et ceci va nous permettre d'établir un pronostic vital et fonctionnel. Et l'utilisation de ces scores ou l'échelle officielle, telle que les scores des NIHSS, est recommandée par certaines institutions, comme aux États-Unis, où ils peuvent l'appliquer rapidement. Et ceci a démontré que on peut réaliser une large partie des professionnels de santé. On peut bien évidemment les étiqueter là-dessus afin de voir des données qui sont trop fiables dans la réalisation de ces scores. Et là, il s'agit tout simplement de la surveillance neurologique comme étant une étape de la prise en charge dans la phase aiguë des AVC.
Docteur, qu'en est-il de la surveillance des paramètres vitaux?
Les paramètres vitaux doivent être surveillés. Et beaucoup plus précisément, Nani, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, l'AVC est la cause, que ce soit l'AVC, chimique tout comme hémorragie, nous retrouvons que l'hypertension artérielle chronique joue un rôle important dans la survenue de cette maladie. Alors, vous comprendrez que le maintien d'une pression de perfusion cérébrale efficace est un objectif prioritaire dans la prise en charge d'un AVC. Et d'une manière générale, nous, cliniciens, si la pression artérielle est au-dessus de 185 dont la pression systolique, 185, et 110 la pression diastolique, millimètres de mercure, si aucun traitement n'est envisagé, il est recommandé à tout prix de respecter l'hypertension artérielle contemporaine de la phase aiguë de l'AVC. Cette pression doit être maintenue ainsi. Parce que voilà pourquoi il est recommandé pour les médecins généralistes qui sont enrôlés dans la prise en charge de cette pathologie de ne pas se précipiter à donner, par exemple, les antidépresseurs pour diminuer de manière brutale la pression artérielle. Parce que cette pression artérielle élevée, elle est salvatrice pour la zone de pénombre, afin d'optimiser la perfusion des vaisseaux dans le reste du parenchyme cérébral. Donc, cette pression artérielle, quand de même elle est montée, on ne doit pas du coup aller donner les antidépresseurs directement et vouloir et espérer répondre à cette problématique.
Et dans le cas où la pression artérielle doit être abaissée?
Alors, dans le cas où la pression artérielle doit être abaissée, ça je voudrais aussi souligner. Ce n'est pas que quand on dit il faut laisser cette pression artérielle et des aiguilles salvatrices que vous devez laisser la pression ainsi jusqu'à la fin de votre traitement. Non, ça je ne l'ai pas dit. Il y a toujours, comme on dit en médecine, ni jamais ni toujours. Alors nous sommes en train d'aller en expliquant comment est-ce que et quand est-ce qu'il faut revenir les antidépresseurs et comment est-ce qu'il faudra donner les antidépresseurs et quand est-ce qu'il faut, il faut les donner. Et dans le cas où la pression artérielle doit être affectée progressivement, elle doit être maintenue en dessous, bien évidemment, de 180 sur 110 mm de mercure. Et il sera pratiqué de préférence une perfusion intraveineuse pour un meilleur ajustement tensionnel. Alors, il y a bien des molécules, je pense que je n'ai pas votre autorisation pour citer les molécules, pour ne pas faire peut-être la publicité d'une firme pharmaceutique. Alors, nous avons bien évidemment plusieurs gammes d'anti-hypertenseurs. Et nous avons, par exemple, les inhibiteurs calciques. Nous avons les antidépresseurs bêta-bloquants, les antidépresseurs alpha-bloquants, qui sont utilisés, bien évidemment, dans la prise en charge de l'AVC, si, bien entendu, la cause est cette hypertension artérielle qui est chronique. Nous avons, d'autre part, on fait des électrocardiogrammes.
D'accord, mais à quel moment doit-il être réalisé?
L'ECG doit être réalisé dès le début de la prise en charge afin de détecter toute anomalie cardiaque associée. Avec l'électrocardiogramme, nous pouvons avoir une idée sur les pathologies cardiaques associées à cet état de santé. Nous avons aussi, comme autre élément dans la surveillance neurologique, nous devons aussi revoir la température.
Dans le cas présent, quelle est l'importance de surveiller la température corporelle?
Parce que l'hyperthermie, ça veut dire une température supérieure à 37,5 degrés Celsius, doit être traitée au moyen d'un antipyrétique de type paracétamol. Donc, et nous avons, après la surveillance de la température corporelle, nous devons revoir aussi la fonction respiratoire. Nous allons interroger les poumons. Et la fonction respiratoire est également monitorée et la liberté de voie aérienne supérieure doit être aussi assurée dans cette prise en charge.
Pourquoi la prise en charge des AVC implique aussi la surveillance de la glycémie?
Nous devons surveiller également la glycémie du patient car une anomalie préexistante de glucose peut être aggravée à la phase aiguë. Il y a aussi le bilan étiologique. Ça veut dire, quand nous sommes en face d'un AVC, les résultats des examens et interrogatoires menés dans le cadre de la surveillance neurologique et ainsi que la surveillance des paramètres vitaux servent de base à l'enquête de l'étiologie de l'AVC. Donc, on doit faire aussi le bilan étiologique afin de faire une bonne démarche dans la découverte de l'étiologie ou de la cause de la maladie. Il y a d'autres pratiques, peut-être que nous, en Afrique, on ne peut pas réaliser.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Cela nous amène à la question de Christian Kasongo et Espoir Kitumaini, qui aimerait savoir s'il y a aussi un traitement impliqué dans la prise en charge des AVC.
Là, c'est la prise en charge de l'AVC dans la phase qui comporte non seulement le point que nous venons de voir, mais également l'instauration d'un traitement médicamenteux au long cours. Ça veut dire qu'on peut donner, dans le principe, quantité les molécules, nous pouvons utiliser ce que nous appelons les anti-agrégats plaquettaires. Nous pouvons utiliser les anticoagulants. C'est instauré aussi chez nous en Afrique la prise en charge de l'AVC par une chirurgie ou un traitement endovasculaire. Il y a des fois, il y a un hématome qui s'est formé.
Que faites-vous alors lorsqu'il y a un hématome, comme vous venez de l'évoquer?
On peut faire une trépanation en créant des trous. Et puis on aspire, on fait le vidange du sang accumulé dans le parenchyme cérébral. Il y a ce que nous appelons la rééducation précoce. Nous sommes toujours dans la phase aiguë de prise en charge de l'AVC. C'est pour ça que j'ai souligné avant que la prise en charge de l'AVC est pluridisciplinaire. Donc il n'y a pas que le médicament, il y a aussi plusieurs choses. Et comme là, je voudrais un peu parler sur la rééducation précoce, pendant la prise en charge de la phase aiguë de l'AVC. Il y a ce que nous appelons la rééducation adaptée.
À quel moment du traitement recourez-vous exactement à cette rééducation adaptée?
Il doit être mis en œuvre dans les premiers jours qui suivent l'hospitalisation. L'intensité du programme dépend de l'état du patient et aussi du degré d'invalidité. Car si une rééducation active n'est pas possible, une éradication passive doit tout de même être instaurée afin de minimiser le risque de rétraction tendineuse, douleurs telles que des douleurs articulaires, glissaires, ce que nous appelons les maladies d'ictus prolongées, telles que les escarres, glissaires et autres, parce que le patient est alité, il ne sait pas se mouvoir, il peut développer des plaies sur son corps. Alors là, voilà pourquoi ça nécessite une rééducation précoce.
La rééducation n'implique-t-elle pas l'intervention des kinésithérapeutes?
Les soins doivent être associés aussi de masseurs, hein, kinésithérapeutes. Dernièrement, si vous vous rappelez, je parlais que la clinique qui découle de l'AVC, nous trouverons des problèmes de faiblesse, de paralysie de bras, de jambes, du visage ou encore de toute la moitié du corps, ce que nous appelons couramment l'hémiplégie. On peut avoir des diminutions, perte de sensibilité d'un bras, d'une jambe, du visage ou encore de toute la moitié du corps. On peut avoir des difficultés pour parler, pour articuler, pour comprendre. On peut avoir des troubles de la vision, ou baisse brutale de la vue d'un œil, ou diminution d'une partie du champ visuel donné. Alors, tous ces éléments, vous vous rendrez compte que nécessiteraient une rééducation ou une kinésithérapie. Pour faire cela, nous avons besoin toujours de la prise en charge de l'AVC, des kinésithérapeutes, d'orthophonistes, des ergothérapeutes ou encore des psychologues, en fonction des besoins qui auront été établis lors de l'évaluation par un professionnel, le plus souvent dans les 24 premières heures. Alors, les recommandations pour la pratique clinique de la rééducation de la fonction motrice doivent être mises en œuvre pour faciliter l'amélioration du pronostic dans les cas où la rééducation est débutée précocement et après l'AVC dans la phase aiguë.
Docteur Kazadi, quelles sont les recommandations pour la phase post-AVC?
Dans la phase post-AVC, il y a aussi bien des choses qu'on doit devoir faire. Et cette prise en charge, elle est aussi pluridisciplinaire, faisant appel à ce que j'ai dit précédemment, tel que la rééducation fonctionnelle entre les médecins, la médecine physique doit intervenir pour la réadaptation et autres intervenants paramédicaux, comme je les ai cités dessus, les kinésithérapeutes, les orthophonistes. Les autres doivent aussi accompagner pour prévenir les séquelles dans les phases qui suivent. Dans certains cas, on peut aussi faire appel à des dimensions psychologiques, telles que les psychiatres, aussi les psychologues qui peuvent aider. Dans certains cas, aussi avoir les actes de soins, de l'éducation thérapeutique du patient, aussi entre les infirmiers et les aides-soignants à domicile. L'objectif est ici de mesurer les complications et d'y apporter un traitement ou encore une compensation. Certains patients peuvent ainsi présenter des troubles de déglutition, des douleurs, des troubles physico-sphinctériens, des escarres, comme je l'ai dit précédemment, et tout ça qui arrive, même le bilectique, les patients peuvent présenter toutes ces complications. Et voilà pourquoi la prise en charge post-AVC est primordiale pour tout à fait éviter la survenue des séquelles dans la prise en charge de l'AVC.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Ok, j'espère que nos auditeurs ont bien compris toutes les explications que vous avez données. Maître Benjamin Kalumba, Jason Toumba et Hermès Engebé veulent aussi savoir s'il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour prévenir les AVC.
La prévention fait partie des phases très très importantes dans la prise en charge de toutes les pathologies. L'OMS a pu classer trois phases ou trois étapes dans la prévention de l'AVC. Nous avons une étape que nous appelons la prévention primaire. La prévention primaire, c'est cette phase qui est tout à fait classée par l'OMS comme étant une phase d'intervention sur le monde dit et qui a prouvé leur efficacité en réduisant même le risque d'AVC. Il s'agit cette fois-là d'une étape importante dans la stratégie de prévention qui doit être basée sur certains éléments que nous pouvons citer. Dans la phase primaire de la prévention des AVC, l'autre point, je vais parler du facteur favorisant l'AVC. Donc, les facteurs qui favorisent l'AVC doivent être indiqués pour prévenir la survenue de l'AVC. Alors, je vais citer, dans la phase primaire, il s'agit des tirages du tabac, par exemple, chez les patients qui fument et faire les exercices. Deuxièmement, on peut prévenir l'AVC sur le plan primaire ou basique par les exercices physiques quotidiens. Tu peux toutefois éviter les gens à faire l'AVC. Le contrôle de la masse corporelle, par l'indice de masse corporelle, pour éviter l'obésité et aussi le contrôle alimentaire des patients qui ont un risque de faire le diabète, par exemple. Donc, de prévenir cet état de choses.
D'accord. Mais la prévention n'englobe-t-elle pas aussi certains types d'aliments?
Nous avons aussi la diminution des consommations de substances riches en cholestérol. Ceci peut aussi aider à prévenir dans la phase primaire des AVC. Nous avons le régime riche en fruits, légumes, apports, bien entendu, hebdomadaires, les poissons, les eaux de mer et tout ça. Ces aliments peuvent être utilisés dans leur phase primaire comme étant les moyens de prévention de l'AVC. Nous avons désormais ce que nous appelons la prévention secondaire. La prévention secondaire n'est rien d'autre que l'ensemble d'actes destinés à s'opposer à l'évolution de la maladie ou encore à faire disparaître les facteurs de risque. Je peux m'expliquer qu'il s'agit au tout début de l'apparition du problème de santé et comme dans le cas de figure, il s'agit de l'AVC, dont le but là de diminuer même la prévalence de la maladie dans la population.
Docteur, pourquoi dit-on que la prévention secondaire est plus importante?
La prévention secondaire est plus importante puisque, de la part de l'évolution de la prise en charge, le nombre de personnes survivant à un AVC est de plus en plus élevé. Et cela fait nous dire que c'est déjà un moyen très important pour pouvoir prévenir l'AVC au lieu d'attendre les complications et vouloir se faire soigner ou encore chercher à se faire soigner comme je l'ai dit précédemment. Alors la prévention secondaire dépend donc de la cause de l'AVC établie lors du bilan étiologique. Dès qu'on connaît l'étiologie, et même la prévention des complications en dépendra. Alors dans cette phase secondaire, c'est là que nous trouvons qu'il y a les traitements pharmacologiques, par exemple, on utilise les médicaments que je n'ai pas cités, je parlais des alpha-bloquants, bêta-bloquants, et dans la prise en charge, par exemple, de la pression artérielle. Donc, il faut un traitement pharmacologique chez les patients qui souffrent de l'hypertension chronique, qu'ils soient soignés précocement, c'est-à-dire par des bons médecins, après un bilan bien établi, et donner les traitements qu'il faut ou adapter au type de pathologie ou encore d'hypertension qu'ils ont. Et ceci peut, sans problème, résoudre leurs problèmes. Pour ceux qui souffrent de l'AVC secondaire à l'hypertension artérielle chronique.
Comment les médicaments peuvent-ils entrer en scène dans la prévention des AVC?
Nous pouvons avoir aussi les traitements pharmacologiques du contrôle lipidique, donc dans le médicament pour diminuer le taux des lipides. Donc on peut avoir un traitement médicamenteux pour contrôler la glycémie chez les patients qui souffrent de diabète. Les antidiabétiques oraux, ils ont tous ceux que peut-être les auditeurs savent pour traiter le diabète. Selon les types de diabète, donc ces patients-là doivent en avance se prendre en charge parce que les complications qui en découlent sont plus néfastes. Et comme le cas des figures, c'est l'AVC qui peut survenir. Voilà pourquoi il est important que les patients se prennent en charge quand ils ont par exemple des hyperglycémies non contrôlées. Alors il faut qu'il y ait une prise en charge bien adaptée. Et nous avons les traitements antithrombotiques, les anticoagulants qui peuvent intervenir là-dessus dans la prévention secondaire des AVC. Nous avons la prévention tertiaire.
Qu'implique cette prévention tertiaire?
La troisième phase ici est l'ensemble des actes ayant pour but tout simplement de diminuer les éventuelles complications ou récidives dans toute la population ou à ceux-là qui souffrent déjà ou qui ont eu à souffrir des AVC. En d'autres termes, je peux m'expliquer qu'il s'agit tout simplement de problèmes de santé qui ont été déjà déclarés. C'est-à-dire, c'est un patient qui a eu à avoir son AVC et qu'il doit être pris en charge pour prévenir la survenue des séquelles ou des complications. Et ce qui importe à ce stade est donc d'amoindrir les invalidités chroniques liées à la pathologie ou encore au traitement. Et les objectifs de cette phase, bien évidemment, appliqués à l'AVC, afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes ayant présenté un AVC et prévenir la récidive d'AVC.
Est-ce que le risque pour le patient qui a fait l'AVC de refaire la crise est énorme?
Le risque est vraiment énorme si l'observation des mesures préventives n'a pas été faite d'une manière adéquate ou elle a été prise à la légère.
Nous allons clore cette interview avec une question de Christian Politazzi. Quel conseil à donner aux patients ayant fait cette crise?
Le conseil est simple. Il faudra observer selon qu'il leur a été dit la cause de leur maladie, c'est telle ou telle autre chose. Pour ce patient qui a connu l'AVC, à cause de son hypertension artérielle chronique, il n'était pas contrôlé. Et par malheur, il tombe dans ces tableaux. Ça veut dire que ce patient doit devoir contrôler, voir son médecin régulièrement pour pouvoir se rassurer de sa pression artérielle, si elle est normale. Et si elle est élevée, qu'une prise en charge soit entamée précocement afin de prévenir des récidives ou encore des complications liées à cet état qu'il a eu à connaître en avance. Et c'est un patient, par exemple, qui a son AVC secondaire à un diabète, donc il doit voir son médecin, son diabétologue, pour la prise en charge. Et que, parce qu'à chaque fois qu'il y aura un déséquilibre glycémique, par conséquent, le patient peut toutefois tomber dans le même tableau. Ça veut dire que le conseil, son fonction de la cause ou de l'étiologie de la maladie en question. Et aussi, donc, les exercices physiques. Les contrôles de la santé de l'indice de la masse corporelle, ces choses doivent être observées parce que moindre prise de poids peut toutefois faire provoquer ou encore entraîner de rechutes. Le patient peut revoir l'AVC revenir ou encore faire de même crise.
Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Nous espérons vous revoir pour bientôt.
C'est à moi de vous dire merci encore une fois pour cette occasion de parler sur les AVC. Merci, Nani.
C'est l'entretien que nous a accordé le docteur Paskazadi, neurologue à l'hôpital du Saint-Conteneur et à la clinique Mankaché à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Il a expliqué comment prévenir un accident vasculaire cérébral, mais aussi comment se fait la prise en charge de la maladie. C'est aussi la fin de ce programme hebdomadaire d'information sur la santé, votre avenir. Il vous a été présenté par Nanit Talani grâce au concours de Michel Joseph qui en a assuré la réalisation. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VO Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VO Afrique.
Programme sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com.